Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rentre donc dans le vif du sujet avec cette première partie immobilière. On accueille Igal Nathan, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur associé de René Coste. Je le disais en préambule, on va parler démembrement, nue propriété, usufruit. Ce sont des termes que l'on évoque très souvent quand on est en gestion de patrimoine. Mais ça vaut peut-être le coup qu'on repose un petit peu les principes sur le bureau avant de commencer. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce qu'est finalement une nue propriété, ce qu'est l'usufruit, comment l'un se distingue de l'autre dans ce monde immobilier en tout cas?
Oui, tout à fait. Vous faites bien de le rappeler, la propriété, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est toujours un faisceau de droit. On a l'impression que c'est un droit monolithique, mais effectivement, la propriété est un faisceau de droit. On en retient en général trois grandes parties. Premièrement, l'abusus, ce qu'on appelle aussi la nue propriété, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose, de le détruire, de le vendre. Usus, le droit d'usage, donc le droit d'utiliser la chose dont on est propriétaire de ce droit. Et puis enfin le fructus, le droit d'en retirer un fruit. Donc effectivement, dans le cadre d'un démembrement de propriété, eh bien on va séparer la nue propriété, l'abusus, de l'usufruit, qui comprennent les droits d'user du bien et en retirer des fruits. C'est effectivement quelque chose qu'on connaît bien dans l'immobilier, mais qu'on connaît encore mieux dans d'autres secteurs, comme par exemple l'automobile, puisque vous savez bien qu'en une quinzaine d'années, le marché de l'automobile est passé de la propriété au démembrement de propriété, la LOA, la LDD, le leasing automobile. Et donc, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on était à 100% en propriété, on est passé sur un marché 90%.
Les mots tout techniques de démembrement d'usufruit et de nue propriété quand on parle de LOA ou de LDD ou de leasing, effectivement. Quels sont les principaux défis, du coup, qui se posent sur ces biens immobiliers lorsque un épargnant, j'ai envie de dire, même si c'était pas vraiment de l'épargne au départ, mais enfin, lorsqu'un héritier, est confronté, lorsqu'il reçoit finalement la nue propriété, j'imagine que c'est ça essentiellement qu'on reçoit, dans le cadre, soit d'une donation, soit encore mieux d'un héritage.
Vous avez raison. Dans toute gestion active du patrimoine, on peut investir en nue propriété dans un bien. On peut démembrer des titres de SCI, SCPI et puis pour investir. Mais dans tout décès, en tout cas quand il y a un couple et un conjoint survivant, le droit français accorde au conjoint survivant l'usufruit à vie pour la maman, le papa qui reste évidemment usufruitier de la résidence, et les enfants, les beaux-enfants, vont hériter de la nue propriété. C'est la même chose, c'est le même démembrement qui se passe quand, sur conseil d'un notaire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine, je vais démembrer mes parts de SCI ou une partie de mes biens immobiliers pour en faire la donation à mes enfants. D'accord. Évidemment, c'est toujours une optimisation. Et on se retrouve dans le cas que vous présentiez il y a quelques instants, avec des héritiers ou des récipiendaires de donations qui se retrouvent avec une nue propriété, donc c'est-à-dire un capital, mais ils ne peuvent ni en jouir, ils n'ont pas l'usus, ni en retirer des fruits, ils ne peuvent pas le mettre en location, ils ne peuvent pas en retirer des
puisque
dividendes,
tout ça reste,
ils n'ont pas le fructus.
Au conjoint survivant,
ouais. Exactement. Et que faire de cette nue propriété? C'est là qu'on peut intervenir.
Et là, c'est là que René Coste a gambergé et propose une solution qui peut être intéressante et qu'on va présenter donc ce matin. C'est Hérite Immo. Et la promesse, c'est de monétiser finalement cette nue propriété, c'est ça?
Tout à fait. Alors, René Coste, depuis une centaine d'années, puisque la maison à 1900 est créée en 1921 par Madame René Coste, on est spécialiste du démembrement de propriété, viager, nue propriété, cession bail à vie, vente à terme, et on avait pour habitude de vendre des nues propriétés à des investisseurs, mais on était souvent à l'origine du démembrement, c'est-à-dire que l'occupant, le propriétaire, conservait la jouissance via usufruit du bien et céder à un investisseur professionnel ou particulier la nue propriété. Et puis, on s'est retrouvé contacté par des héritiers, des enfants qui avaient reçu des nues propriétés en donation. formation et qui disait bah, « moi, j'ai ce patrimoine, mais j'ai besoin de le monétiser. J'ai besoin de monétiser ma succession, mon héritage. Est-ce que vous pouvez m'aider ?»
Et alors concrètement, ça marche comment ? Quel est le processus qui part finalement d'un morceau de papier, entre guillemets, qui nous dit « vous êtes OK, nu propriétaire, super », et de lui faire faire des petits.
Exactement. J'ai mon titre de propriété, de nu propriétaire du bien. Je l'ai reçu en succession au décès d'un des parents ou en donation. Et bien, je vais vendre cette nu propriété à un investisseur particulier ou professionnel. Et je vais transformer ce capital immobilier que je ne peux pas utiliser. Je vais le transformer en liquidité financière puisque je vais être remplacé par un investisseur.
Donc on se repasse entre guillemets la patate chaude, quoi.
On se repasse l'investissement. On a en France des dizaines de milliers d'investisseurs qui sont à la recherche d'investissements en nue propriété. Ça peut être via Renecos, ça peut être via de l'usufruit locatif social que font nos amis de chez Perle ou ailleurs. Donc on a ces investisseurs qui, eux, sont là pour du placement à long terme, qui ne sont pas pressés, au contraire, qui veulent cet investissement immobilier de capitalisation, hein, sans revenu, mais un investissement immobilier par capitalisation. Et on a ces propriétaires de nue propriété, héritiers, donataires, qui ont besoin, eux, de liquidités. Eh bien, effectivement, on organise cette transaction en toute sécurité, en préservant les droits de l'usufruitier.
Et il y a entre guillemets des... Enfin, oui, on comprend mieux, on rend le capital liquide, mais il y a d'autres avantages, on va dire, financiers pour un héritier de vendre cette nue propriété ?
Ah, l'urutier, son avantage, c'est qu'à un moment, il a besoin de liquidité. S'il n'a pas besoin de liquidité, oui, il peut rester investi, à condition que ça soit sa stratégie patrimoniale, parce que c'est des investissements long terme de capitalisation qui ne génèrent pas de revenus. Mais l'intérêt, en fait, quel est les cas d'usage principaux de nos clients ? Ce sont les gens qui ont besoin eux-mêmes d'acheter une résidence principale. À un moment, ils ont besoin de ce capital initial, sauf que il est bloqué dans cette nue propriété, ou les gens qui ont des projets professionnels à financer, et effectivement, on leur permet de générer cette liquidité.
On rappelle, hein, c'est comme un viager, mais c'est pas comme un viager où généralement vous ne connaissez pas la personne pour laquelle vous achetez la nue propriété. Donc bon, il y a pas forcément de sentiment qui se crée. Là, généralement, vous êtes en train de nous parler d'héritiers dont un parent survivant est encore présent. Comment ça se passe? Comment notamment le contrat garantit les droits de l'usufruitier? Il pourrait se sentir un peu on va dire abandonné par ses héritiers, non ? De les voir partir comme ça en vendant la nue propriété.
C'est une très bonne remarque, Cédric. En fait, dans un cas sur deux, ce sont les usufruitiers qui nous contactent.
D'accord.
En général, la maman, la belle-maman, alors il peut y avoir aussi dans le cas de famille recomposée des situations familiales qui sont conflictuelles, donc là on va venir régler le conflit en donnant son argent à l'héritier en maintenant l'usufruitier dans ses droits, mais en général la maman, c'est elle qui nous contacte en disant bah voilà, je sais que mes enfants, ils ont besoin de cet argent, moi je veux pas partir de chez moi, je veux y rester toute ma vie, donc j'aimerais leur trouver une solution pour qu'ils puissent récupérer l'héritage de leur papa ou l'héritage de leur maman.
Le droit de l'occupant, il est totalement préservé, il n'y a rien qui change.
Il est souvent même renforcé. Alors évidemment, il ne peut pas être dégradé, hein, puisqu'on reprend la convention de démembrement dans l'état où elle avait été faite par le notaire au moment de la succession ou de la donation. Mais parfois même avec un investisseur professionnel ou avec un investisseur particulier, puisque les choses sont bien plus normées que dans des transactions intrafamiliales, il arrive même que l'usufruitier soit bénéficiaire parce que, par exemple, même si certaines charges ou certains travaux sont à la charge du nu propriétaire, il arrive que la maman ou le papa ne fasse pas payer les enfants. Ouais. Évidemment que, c'est ce que vous disiez, avec un investisseur professionnel que je ne connais pas,
J'ai pas forcément envie de...
de lui faire de cadeau. Et les choses se font telles qu'elles sont définies dans le contrat.
Est-ce que, avec le retour d'expérience, vous avez, on va dire par un portrait robot, mais le cas ou les deux, trois cas les plus fréquents où cette possibilité est utilisée?
Oui. Alors, j'adore cette question. Quels sont nos usual suspects? C'est ça, votre question. Premièrement, famille recomposée. Donc, en général, quand il y a les enfants d'un premier mariage avec la belle-maman ou le beau-papa. Ils n'ont peut-être pas envie, surtout parfois, ils ont le même âge, les enfants du premier mariage, donc ils n'ont pas envie de prolonger cette relation conflictuelle. Donc à un moment, l'idée, c'est que chacun récupère sa partie de l'héritage sans qu'il n'y ait plus de relation. Ça, c'est premier joueur suspect. Le deuxième, c'est dans le cas de donation. Donc il arrive souvent sur conseil du notaire ou du CGP que, par anticipation, on donne des biens en démembrement à des enfants jeunes, quand ils ont 12, 13, 15 ans, 18 ans. Il peut arriver que 10, 15 ans après, les enfants, eux, ils ont vraiment besoin...
La situation patrimoniale a changé.
Exactement. Ils auraient besoin de cet argent-là. Les parents continuent à louer ce patrimoine qu'ils avaient donné en démembrement. Ils ont besoin encore, en complément de retraite, des loyers. Donc, ils conservent les loyers. Mais on leur apporte une solution pour que gratifier de liquidités financières d'un capital leurs enfants.
Juste dernière question, peut-être, Yigal Nathan, c'est tout ou rien, parce qu'on pourrait imaginer un cas un peu particulier d'une famille avec effectivement un des deux parents survivants, une nue propriété qui a été divisée entre plusieurs enfants, et seul peut-être un des enfants a besoin de liquidités et pas les autres. C'est soit on fait toute la nue propriété, ou on peut là aussi la découper et finalement associer un détenteur de nue propriété. Enfin voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, mais...
Techniquement, rien n'interdit.
Ouais, mais en fait, ça n'existe pas.
Mais en vrai, le fonctionnement d'une indivision est déjà compliqué en soi.
On ne va pas
rentrer un investisseur particulier dans une situation conflictuelle avec des frères qui veulent vendre et puis des frères qui ne veulent pas vendre.
Quel conseil, pour finir, on donne peut-être à tel ou tel auditeur, auditrice qui nous entend matin et qui se dit tiens, peut-être c'est pour moi.
Si un de vos auditeurs est propriétaire de toute ou partie d'une nue propriété, parce qu'après il peut s'entendre avec ses co-nus propriétaires, et qu'il a besoin de liquidités pour financer un projet professionnel, un projet personnel, un investissement immobilier, je les incite à nous contacter et on est capable de faire une évaluation de leurs droits au prix du marché et de leur indiquer la faisabilité ou non de cette monétisation.
Eh bien voilà, ça s'appelle Hérite Immo. Yigal Nathan, merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine. On poursuit notre petit voyage ce mercredi.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.